Ça sent la période estivale, non? En plus, les verres sont vides, dommage. Il y aurait un petit cocktail, ça aurait été sympa. Mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de culte. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en présentiel et aussi bienvenue à vous qui êtes dans votre salon. Aussi, justement, peut-être avec un petit cocktail ou un petit rafraîchissement pour cette période aussi qui commence estivale. Alors, ce que je vais vous... Donc, on voit les pédalos. On voit le culte sera un petit peu autour du repos des vacances. Alors j'ai envie de vous demander, qu'avez-vous prévu comme repos pendant vos vacances? Alors je vais peut-être faire un petit tour avec mon micro-baladeur pour vous demander où allez-vous pendant vos vacances et où avez-vous prévu de faire de votre repos?
Philippe, tu as prévu pour tes vacances, pour te reposer, du repos. 15 jours en arrêt. En randonnée. Ouh, ça c'est cool.
Pas trop. Aussi en public.
Ça c'est bien aussi pour le repos. Qui c'est qui a une idée pour se reposer pendant les vacances? Allez, Charabelle.
À la maison.
À la maison? Repos tranquille. Un petit match de temps en temps. Et toi, Isabelle?
Je vais faire un stage de basket au Rhône-Alpes. Au Rhône-Alpes, le centre de Rhône-Alpes.
Voilà, je vous propose d'invoquer le nom de notre Père pour ce moment de culte. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous avons aussi, cette période estivale, cette chaleur, ce soleil. Et Seigneur, aussi ce temps où nous pouvons faire un arrêt, où nous pouvons sortir de notre rythme habituel, de nos habitudes. Et Seigneur, pour pouvoir nous poser, Seigneur, peut-être faire un petit bilan sur ce que nous avons vécu durant l'année. Alors Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre ce culte, justement, pour que Philippe puisse nous guider aussi dans ce temps de bilan, que nous puissions recevoir aussi de ta part ce temps de repos, comme tu l'as fait au septième jour. Et Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, que tu sois présent avec nous pendant ce temps, que tu sois aussi présent avec ceux qui sont peut-être en recherche, avec ceux qui sont blessés aussi. Mais Seigneur, que ce soit un temps d'apaisement, un temps de tranquillité, Seigneur, un temps où on peut se reposer des bonnes questions. Alors Seigneur Jésus, nous voulons invoquer ton nom sur ce moment de culte. Et Seigneur, que tu sois présent avec nous et que tu nous encourages. Amen. Je vais vous proposer de partir en croisière pour ce moment de louange. Alors c'est une croisière un petit peu particulière. Ça se trouve dans Matthieu 14. Alors merci à nos musiciens de nous rejoindre. Alors on va partir avec Jésus. Alors il n'est pas là tout de suite, mais il nous demande de prendre le bateau, de partir en croisière. Alors je lirai dans Matthieu 14. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans une barque et à le précéder sur une autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand ils l'eurent renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. La croisière, elle... À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. J'imagine sur notre eau, sur notre mer, sur nos vagues, suivant les circonstances, enfin des fois même hors de l'eau, nous avons besoin d'être rassurés. Pour les marins de l'époque, un phare était un moyen de repère. Ah oui, le port est là-bas, on voit le phare. Et pour nous, Jésus aussi est notre Père, et je vous propose de le chanter, de chanter comme un phare.
Sa lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense. Sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants vers le bas, un cœur de ton amour. Comme un phare dans la sa lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton âme. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour.
Continuons notre croisière. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens, Pierre. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, « Seigneur, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et dans nos activités, il arrive que nous ayons peur, que nous nous enfoncions. Il arrive que des fois c'est trop, et puis on ne sait plus trop comment voir l'avenir. Nous avons besoin d'un point de départ stable. Nous avons besoin de calculer aussi, calculer la grandeur de notre tour, si nous aurons les finances, si nous aurons les moyens d'arriver à construire notre tour. Et là, nous avons besoin d'un point de stabilité pour nos départs et aussi de voir un petit peu quelle est la finalité des choses. Et le Saint-Esprit est là dans notre navigation, dans nos cheminements, pour que nous puissions arriver à bon port, que nous puissions partir stable et arriver stable, même si au milieu il y a des vagues, dans nos cheminements nous puissions être stables. C'est pour ça que nous avons besoin d'une bonne ancre de départ, une bonne ancre à l'arrivée, et puis d'une voile pour nous amener d'un point à un autre. Et c'est le rôle de l'Esprit-Saint. Et je vous propose de chanter « Mon ancre et ma voile ». Aussitôt, Jésus tendit la main et l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Le vent tomba, tout s'apaisa avec Jésus dans la barque. Cette fois, cette confiance était mise à rude épreuve pour Pierre, qui tout à coup s'est rendu compte des circonstances. Prendre le temps d'un bilan, prendre le temps d'un repos lorsqu'on a passé ces étapes, c'est quelque chose qui nous aide à nous restructurer. Et c'est ce que le prochain chant nous propose, c'est dans le calme et la confiance. Je vous propose qu'on chante ce dernier chant, debout. J'aimerais prier pour Philippe pour la prédication. Oui, Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre Philippe, te remettre en ta présence, Seigneur, que l'Esprit Saint le guide et que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs aussi à entendre ta parole que tu lui as mise dans son cœur. Alors, Seigneur Jésus, sois présent avec lui, sois présent avec nous aussi, que nous puissions t'entendre, que nous puissions être encouragés par toi, que nous puissions être aimés par toi. Alors, Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre Philippe, qu'il soit entre tes mains. Amen.
Amen. Merci, Claude. J'ai un petit souci, Eric Henry, j'ai plus de réseau. Mais je suis sûr que tu vas pouvoir m'aider. Je te ferai coucou. Alors, c'est peut-être d'abord la première, si tu veux bien, si toi tu l'as. Bonjour, hein. Excusez-moi, hein, on est entre nous. C'est une tentative ce matin de commande à distance. Et enfin, vous allez voir, je suis super à l'aise avec ces outils. Donc... Merci à Eric de m'aider. On dirait que c'est revient dû. Attends voir. Stack. C'est ce qui me semble aussi. Ça a l'avantage de la clarté au moins. Merci, Claude. C'est un mojito ? Non, pardon. ça fait envie, hein. Même quand on va à la montagne, on se dit, c'est pas mal la mer aussi. Nous sommes le dimanche 20 juin 2021. Et je cherche un mot qui rime avec partance. Nous y pensons toutes et tous, ou presque, et nous ne sommes pas en avance. Ce n'est pas la bienséance, ni les nuisances, mais bien les vacances, bientôt. Les Mathusards sont arrivés au bout de leurs examens, les écoliers y sont presque, et les instits aussi. Les vacances. Alors cherchez ce mot dans votre Bible, et je vous avertis d'avance, vous ne le trouvez pas. Le mot « vacances » n'est pas dans nos Bibles. Mais à bien réfléchir, il y a plusieurs passages qui rejoignent notre idée de « vacances ». Au point que je serais assez tenté de dire ce matin que Dieu a inventé les vacances. Une première slide, si Eric arrive à nous l'envoyer. Merci. La première mention de vacances, quelque chose s'en rapprochant, est un peu énigmatique. C'est tout au début de notre Bible, c'est tout au début de la Genèse, au chapitre 2, et les versets 1 à 2. Nous sommes à la fin des 6 jours de la création et nous lisons « Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Pourquoi est-ce que je dis que c'est énigmatique? Pas parce que je voudrais entrer dans le débat de ces fameux 6 jours à prendre au pied de la lettre ou à prendre de manière symbolique, c'est pas le sujet ce matin. Non, le problème, c'est que ça donne plutôt l'impression qu'après 6 jours, Dieu était fatigué. Comme nous. Qu'après 6 jours, Dieu avait besoin de s'arrêter. Dieu avait besoin de récupérer. Et qu'après ces 6 jours et ce 7e jour de repos, eh bien, le 8e jour, Dieu allait reprendre son activité. Mais dire que le Seigneur Dieu Tout-Puissant était fatigué, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Jésus a dit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Dieu n'est pas fatigué. Jean 5, verset 17. Nous découvrons dans les Écritures que Dieu soutient toute chose et que s'il arrêtait de porter l'univers, celui-ci tomberait immédiatement dans le néant. Dieu n'a jamais arrêté d'agir. Le Fils éternel soutient toute chose par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3. Et un psaume qu'on a médité cette semaine quelques instants avec le fil d'argent nous dit que jamais il ne dort, jamais il ne sommeille celui qui prend soin d'Israël. Dieu ne peut pas être fatigué. Et pourtant, la Genèse dit qu'il se repose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il me semble que ça veut dire, je suis sur la slide 4, Eric, si tu arrives à reprendre le cours des choses. Hein. Ça veut dire que probablement la création est terminée. Quand Dieu se repose, à la fin du sixième jour, c'est que la création est terminée. Il y a eu depuis la naissance d'étoiles, il y a eu depuis la naissance de centaines de millions d'êtres humains. De temps en temps, il y a des miracles qui défient les lois de la nature, la tempête apaisée, par exemple, ou Jésus qui nourrit une foule avec 5 pains et 2 poissons, ou encore Jésus qui change de l'eau en vin. Il y a eu depuis des miracles étonnants, mais la grande et majestueuse œuvre de la création est terminée. Et c'est pour cela que Dieu peut dire qu'elle est bonne, qu'elle est très bonne, du moins au tout début, avant l'impact du péché. On parle donc de son repos, qui logiquement est un repos qui se prolonge encore maintenant. Si la création est bonne et terminée au sixième jour, et que Dieu entre dans son repos au septième jour, c'est que son repos se prolonge aujourd'hui. Ce septième jour, il est long. C'est le jour le plus long. Et Moïse va utiliser la structure d'une semaine de 7 jours pour dire que Dieu bénit pour nous le septième jour et qu'il en fait un jour saint, kadosh, mis à part. En slide 5, Eric, si tu peux. Dans la religion d'Israël, on appelle ce septième jour le sabbat. C'est un jour de repos, c'est un jour saint, c'est-à-dire que c'est un jour pour Dieu. Et la quatrième des 10 paroles dit ceci. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Et pour les Israélites d'hier et d'aujourd'hui, nous sommes là sur un principe qui est essentiel. Pour les Israélites d'hier et d'aujourd'hui, on ne travaille pas le septième jour. On ne porte aucun fardeau le septième jour. On n'allume aucun feu le septième jour. Au cours des siècles, le judaïsme a élaboré des règles extrêmement complexes et précises pour dire, pour décrire, pour définir ce qu'est un travail. Ainsi, porter un fardeau, ça peut être les clés que vous avez dans votre poche. Et le septième jour, on ne porte pas de fardeau. On ne part pas avec des clés. Ça peut être allumer un feu, au point qu'appuyer sur un interrupteur et provoquer une petite étincelle, c'est un travail et c'est proscrit. Travailler, c'est peut-être faire comme Jésus et guérir un malade qui aurait bien pu supporter d'attendre un jour de plus. Alors on ne le fait pas, on ne touche pas ce malade le septième jour. Il y a dans le judaïsme des exceptions à la règle, bien sûr. Par exemple, circoncire un petit garçon, se défendre en cas d'attaque, sauver une vie. Mais le poids de la tradition porte sur l'interdiction absolue de toute forme de travail. Et nous savons que là-dessus, Jésus, il a parfois contesté la tradition avec la plus grande des vigueurs parce que pour lui, le fond compte plus que la forme. un jour consacré à l'Éternel. Ce jour-là, dans un jour consacré à l'Éternel, il y a un temps, il y a des temps, il y a du temps mis à part pour Dieu, pour la prière, pour la lecture de sa parole, pour la louange, pour l'écoute, pour l'introspection. Nous le faisons individuellement et nous le faisons collectivement avec le reste du peuple de Dieu. Le temps gagné sur le travail qui nous demande tant, n'est-ce pas ? C'est lourd le travail. Ce temps gagné sur le travail sert à renouveler notre relation avec Dieu, sert à nourrir notre foi, sert à apporter en offrande à Dieu une petite partie de nous-mêmes, sert à nous recentrer sur l'essentiel, ce qui nous permettra de tenir dans le travail qui nous demande tant. Et il sert aussi ce temps à nous reposer, parce que notre corps et notre esprit, notre âme, ont besoin de repos. Vous pouvez remarquer que dans l'intention de la loi, tout le monde doit en profiter. Pas question de faire par d'autres ce que nous ne voulons pas faire nous-mêmes, ni même de faire travailler son bétail. Slide 6, Eric, si tu peux. Ce temps de repos, c'est aussi un temps de souvenir. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le jour du sabbat, un temps de souvenir. Et nous, une fois par semaine, on essaie de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que le reste du temps, le travail nous demande tant de choses. Alors, une fois par semaine, on lève le pied et on essaie de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Et parfois, on le concrétise même matériellement, on le matérialise en prenant la scène. On se souvient que Dieu nous a sauvés, que nous avons été tirés de l'esclavage du péché, que Dieu nous donne sa plus grande bénédiction là où nous méritons sa plus grande condamnation, qu'il nous sort de nos enfermements, de nos esclavages, qu'il nous libère pour vivre en nouveauté de vie. Et nous, le dimanche matin, on essaye en toute simplicité de prendre un peu de temps pour nous souvenir. Deux petits compléments sur le thème du repos que Dieu a prescrit. Le premier, c'est que trois fois par an, les Israélites devaient monter à Jérusalem. Ils devaient le faire trois fois par an pour des grandes fêtes, les fêtes importantes. Le peuple montait à Jérusalem. Ils devaient laisser leurs occupations habituelles, ils devaient faire un trajet à pied de plusieurs jours, et pour faire ce trajet, ils étaient accompagnés par les psaumes des montées. Ça vaudrait le coup un jour qu'on les médite, ces psaumes des montées. Une série de psaumes qui accompagnaient les Israélites depuis chez eux, leur ville, leur village, jusqu'à Jérusalem. Il fallait monter à Jérusalem. Là-bas, ils assistaient aux célébrations, et puis ensuite, ils faisaient le trajet retour, de nouveau, plusieurs jours à pied. Ils ne le faisaient pas seuls, mais accompagnés par des milliers d'autres qui convergeaient vers la ville sainte. Est-ce que tout le monde faisait cela tous les ans ? Est-ce que tout le monde le faisait trois fois par an ? Je ne pense pas. Mais adultes, Jésus le faisait, les évangiles nous en parlent, il le faisait. Et enfant, nous le voyons faire, ce pèlerinage, avec ses parents, alors que Jésus a 12 ans. c'était forcément au moins une semaine, probablement 15 jours de vacances. Nous n'allons pas dire que cela correspondait à une sorte de culte interminable de 15 jours. Il y avait certainement des temps de culte. Mais aussi, on discutait, on échangeait, on retrouvait des parents, on retrouvait des amis, on profitait juste d'un peu de temps passé ensemble. Aujourd'hui, certains apprécieront un camp famille dans la Drôme, ou une convention One, ou une retraite à Thésée, ou un temps de formation biblique avec le Free College, ou les grillades de l'été, 4 fois cet été, le mercredi soir. Pas forcément un temps de culte, mais un temps où on s'arrête pour être les uns avec les autres. Mon deuxième complément, j'étais sur ma slide 7, Eric, je te vois de nouveau de retour derrière ta console. Mon deuxième complément, c'est que Dieu a inventé non seulement les vacances, mais aussi les vacances de la terre. Tous les 7 ans, il fallait laisser les terrains en jachère. Tous les 7 ans, il ne fallait pas travailler les terrains. Il fallait que la terre jouisse d'un sabbat, que la terre se repose. C'était l'écologie avant l'heure. Ou on pourrait parler d'une agriculture responsable. L'agriculture responsable, ça donne des idées, hein, aujourd'hui encore. Je vais vous faire une confidence. C'était compliqué de voter la semaine passée. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était compliqué. Et pour essayer de me faire une idée, j'ai eu le bonheur d'avoir un temps d'échange avec Raymond Félix. On a dans notre assemblée des gens qui connaissent la terre comme leur poche, qui peuvent nous donner des idées, qui peuvent venir nourrir notre réflexion. Ça vaut le coup de parler avec Raymond, avec Michel Serex, avec Michel Cretenny et d'autres. Prendre soin de la terre. Une agriculture responsable. Et pour la terre, Dieu a prévu des temps de jachère. Cela me rappelle surtout que le travail, qui est tellement exigeant, le travail n'est pas tout. La productivité, le résultat, le bénéfice n'est pas tout. Nous ne pouvons pas mettre toutes nos billes dans le travail. Le travail n'est pas tout. Il faut des temps d'arrêt, il faut des temps de jachère, il faut des temps de repos, il faut des temps avec Dieu, il faut des temps pour soi. Et je me le prêche à moi-même. Après un concert, un violoniste va toujours chercher à détendre ses cordes. Sinon, ses cordes vont durcir et devenir inutilisables, et au prochain concert, elles pètent. Je suis convaincu que nous avons nous aussi besoin de détendre nos cordes. Et si jamais un jour, votre église, vos pasteurs, votre conseil, tirent trop sur la corde, vous en demandent trop, votre responsabilité est de venir nous le dire. Il ne serait pas normal que l'église contribue à une sorte d'épuisement. L'église, c'est une oasis. Pas une entreprise. Slide 8. Le repos. Est-ce que nous le faisons, nous, à la manière des Israélites? Ben non, manifestement pas. Prenez ce matin, jour de repos. La plupart d'entre vous, vous êtes venus en voiture. Ou en tram. Et dans votre moteur, Ben, il y a de l'électricité, il y a des étincelles. Vous avez brûlé du carburant. Vous avez allumé un feu. Et puis tout à l'heure, probablement que quelqu'un fera à manger. Même cet après-midi, je pense que quelques-uns d'entre nous regarderont un match à la télé, en espérant une victoire de la Suisse. Donc on ne fait pas un repos à la manière des Israélites. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça a changé? Ben, ce qui a changé, c'est la venue de Jésus. Lui qui a tellement insisté sur l'importance de la loi de Dieu, eh ben, il a mis l'institution du sabbat au service de l'être humain. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pour ça que Jésus a guéri le jour du sabbat, alors que c'était interdit par la loi. C'est pour soi qu'il a défendu ses disciples qui se sont fait à manger parce qu'ils avaient faim un jour de sabbat, alors que c'était interdit de se faire à manger un jour de sabbat. Mais Jésus les a défendus. La tradition les condamnait. Mais Dieu n'avait pas cette condamnation dans son intention première, parce qu'il visait le bien-être des humains. Pas le profit, pas la productivité, pas de nouveaux esclavages, mais le bien-être et la liberté de son peuple. Et le changement avec Christ, il va encore un peu plus loin que ça. Dans ses lettres, l'apôtre Paul invite à l'unité de ceux qui se sont convertis à Christ, depuis les religions païennes et ceux qui sont d'origine juive. Il vise l'unité de ceux qui n'ont aucune idée d'un calendrier sacré et ceux qui sont très attachés au calendrier sacré. Dans Romains 14 et 15, il dit à chacun de se forger une conviction et de s'abstenir de toute critique à l'égard de ceux qui ne suivent pas les mêmes idées. Très bien. Cela suppose qu'un calendrier n'est pas si important que cela. Je me rends bien compte que parfois, le calendrier divise les croyants, et d'après Paul, ça ne devrait pas exister. Mais fondamentalement, sa position est encore plus radicale. Il dit aux chrétiens de la Galatie, je suis en slide 9, Eric, si jamais, il dit à ces chrétiens des Galates, « Vous observez les jours spéciaux. Vous observez les nouvelles lunes, certaines saisons, certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous ait été inutile. » Autrement dit, dans leur religion païenne, ces Galates avaient des jours fastes et des jours néfastes. Ils avaient des présages, ils avaient un calendrier à respecter. Et maintenant, ils reprennent ces principes dans le cadre du judaïsme. Autrement dit, ces païens s'imposent une nouvelle loi. Or, par la foi en Christ, nous avons été libérés de cette façon de vivre. Qu'est-ce qui nous motive? Non plus la loi, mais la foi. Non plus l'effort humain, mais la grâce de Dieu. Non plus l'esclavage, mais la liberté en Christ. L'Esprit produit en nous ses fruits, la loi s'accomplit dans l'amour. Pratiquer le sabbat à la manière du peuple juif, pour Paul, c'était tourner le dos à Christ pour suivre Moïse. C'était regresser. C'était revenir en arrière, c'était oublier ce que Christ avait inauguré. Et vers la toute fin de son ministère, Paul revient sur ce thème, Colossiens 2, verset 16. « Ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. » Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. la loi de l'Ancien Testament, qui avait baigné son enfance, la loi de l'Ancien Testament, qui avait structuré la première partie de sa vie d'adulte, Paul dit, ce n'était qu'une ombre, c'était palichon, ce n'était qu'une préparation, ce n'était qu'une préfiguration de la réalité du salut en Jésus-Christ, une réalité glorieuse. En slide 10, Eric, en quoi le repos de l'Ancien Testament préfigure alors le salut qui est en Christ. Nous avons l'habitude de voir comment les sacrifices de la loi de Moïse sont comme une sorte de prophétie qui se réalise à la croix. Eh bien, c'est la même chose pour le sabbat. Je cite là un extrait de l'Épître aux Hébreux. Un repos de sabbat subsiste pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Se reposer de ses œuvres, dans ce sens, c'est abandonner toute tentative pour plaire à Dieu en pensant que nous pourrions gagner sa faveur, en travaillant plus, en priant plus, en donnant plus. Mes amis, nous ne pourrions jamais en faire assez. Jamais. Nous n'aurons jamais la moyenne. Nos bonnes actions n'effaceront jamais les mauvaises. Il faut autre chose. Il faut un autre système, il faut une autre méthode. Et cette méthode, c'est le pardon de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est le salut de Dieu garanti par la croix de Jésus-Christ. Jésus a payé pour tous nos manquements et en lieu et place de la malédiction qui nous collait à la peau, il nous offre sa plus grande bénédiction, l'amour de Dieu. À partir de là, nous pouvons nous reposer de nos œuvres pour servir Dieu par amour dans la liberté que donne le Saint-Esprit. C'est ma dernière slide et ma conclusion. Dieu a inventé les vacances. Un jour, une semaine, deux semaines, une année de jachère, une année peut-être passée à la HET Pro, ou dans un bateau d'opération mobilisation, de compassion internationale. Dieu a inventé les vacances pour que nous nous renouvelions physiquement, parce qu'on en a besoin, pour que nous nous souvenions d'où nous venons, de l'esclavage d'Égypte, de l'esclavage du péché, et que nous fêtions notre libération, que nous fêtions notre liberté. Dieu a inventé les vacances pour que nous trouvions le temps de lui consacrer du temps. Détente, repos, recentrage. Détente, repos, recentrage. D'avance, bonnes vacances à toutes et tous, à la plage, ou à la montagne, ou à la maison, au Brésil, ou ici. Bonnes vacances à toutes et tous. Amen.
Merci à Philippe, merci pour ce temps aussi mis à part. Et on va vous proposer un petit moment de prière communautaire. Je crois que c'est aussi important que nous puissions nous mettre en tant que famille devant Dieu. Et pour ce faire, on va faire comme les dimanches précédents. Donc, lever un petit coup. Je vais commencer la prière et puis après, lever la main. Et comme ça, pour nos amis qui sont derrière leur écran, ils peuvent nous entendre. Alors, levez la main et je viendrai vers vous avec le micro. Prions. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons nous mettre aussi devant toi. Prendre ce temps à part, ce temps de repos qui est un temps à part. Du souvenir, du temps, des belles choses qui sont arrivées, aussi des difficultés que nous avons passées. D'y voir aussi ta main, d'y voir aussi ta présence, d'y voir aussi tout ce que tu as accompagné et tout ce que tu nous as ressourcé. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons prendre ce temps de paix, ce temps de tranquillité, pour aussi être avec toi, que toi tu nous rejoignes, indépendamment de nos activités et de nos stress et de nos temps, de nos carnets d'adresses, nos agendas hyper chargés. Alors sois présent, Seigneur Jésus, dans nos vies, tout au long de cette semaine qui vient et tout au long de ces vacances, Seigneur, que nous puissions nous ressourcer en toi. Amen. Oui, Père, merci pour ta présence. Merci pour entendre ce que nos cœurs te disent. Et Seigneur, nous voulons te remettre cette semaine qui s'ouvre devant nous. Que tu puisses être présent, Seigneur, et nous encourager, nous ressourcer. Et Seigneur, être aussi tes témoins. Que nous n'ayons pas un esprit de timidité, Seigneur, mais que devant les opportunités, Seigneur, que nous puissions y répondre. Amen. Je vous propose maintenant que nous prenions un chant. Ta bienveillance, parce que je crois que notre repos, il est aussi dans la bienveillance de Dieu.
Qui monte avec quand vient.
Alors nous aurons un temps d'annonce, peut-être Armand à la première. Merci, alors peut-être je commence, après je crois Mathieu et puis Elisabeth. Voilà, c'est simplement pour vous rappeler qu'il reste encore quelques places pour rejoindre Mérin-les-Bains en tant que participant. Il reste aussi alors, plein de places. Après, si vous voulez venir manger la raclette, simplement partager ce moment où l'Église sera engagée dans cette activité. Je pense que c'est aussi un temps de prière, aussi un temps un peu mis à part, aussi pour que nos concitoyens, et c'est super parce qu'on pourra mettre un petit panneau qui rappelle que notre Église est là pour partager l'amour de Jésus. Et je pense que c'est aussi ceux qui ne peuvent pas venir prier pour ce Mérin-les-Bains, pour que nous puissions être des témoins, même si on ne peut pas faire du prosélytisme ou faire de l'évangélisation directe, on peut répondre aux questions et prions pour que nos concitoyens ils soient un peu curieux et qu'ils n'aient pas, eux, non plus de timidité de venir vers nous. Donc il reste quelques places. Si quelqu'un se dit, ah ben tiens, oui, pourquoi pas, ça peut être sympa, venez vers moi, vous pouvez toujours vous inscrire. Et puis on trouvera une petite place dans cette activité, dans ce moment de partage qu'on peut faire au niveau de notre famille d'église évangélique mérinoise. Merci. Peut-être Mathieu, je te passe la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, avec le groupe de jeunes, entre Noël et Nouvel An, enfin après Noël et pour Nouvel An, on fait un camp de ski avec les jeunes. C'est un petit peu notre temps de jachère à nous, où pendant une semaine, on est vraiment concentré sur Dieu, et puis on ne pense plus à tout ce qui se passe à côté et tout. Puis on essaie vraiment d'encourager les jeunes à venir à ce camp pour pouvoir développer un peu plus, d'avoir un boost spirituel chaque année, et on trouve ça vraiment important. Et l'année passée, on n'a pas pu le faire à cause du coronavirus. Cette année, normalement, on devrait pouvoir y arriver. On ne sait pas encore, mais on a la foi. Et pour celles et ceux qui ont l'habitude, pour aider les jeunes ou les parents des jeunes à subventionner le camp de ski, on fait normalement un petit déjeuner un dimanche matin, qui est normalement un des derniers dimanches de juin, et une vente de tresses qu'on confectionne la veille. Cette année, malheureusement, on ne pourra pas faire de petit déjeuner pour des raisons sanitaires, mais on a décidé de faire un petit peu une formule différente cette année, où vous avez l'occasion, si vous voulez nous aider à subventionner ce camp de ski, vous pouvez vous inscrire sur le panneau qui est là-bas, ou si vous avez reçu l'actu Mérin de Sylvain la semaine passée, vous pouvez aussi vous inscrire en ligne pour commander des tresses que vous pouvez venir chercher le dimanche matin après le culte, ou qu'on peut venir vous livrer directement à la maison l'après-midi. Donc voilà comment vous pouvez nous aider. Et puis voilà, si vous avez des questions, je reste à disposition. Je ne sais pas si j'ai oublié quoi que ce soit. Voilà, merci à toutes et à tous.
Bonjour. Alors, c'est bientôt les vacances, effectivement, mais avant les vacances, il y a encore une activité assez importante pour notre Église, et c'est le colloque, donc l'Assemblée Générale, qui aura lieu vendredi soir. Alors, c'est important parce que c'est à ce moment-là qu'on donne toutes des informations sur les activités dans les différents groupes. Et il y a un projet qui mûrit pour l'automne qui a l'air très intéressant. Donc, ce sera l'occasion d'en savoir plus. Il y a aussi la répartition de l'excédent des recettes 2019-2020. Vous avez reçu dans la convocation du colloque ces montants. Et vous avez jusqu'avant mercredi soir 23, si vous voulez faire une proposition pour la répartition. On en a déjà reçu quelques-unes, mais vous avez encore jusqu'à mercredi si vous voulez faire une proposition pour quelqu'un qui pourrait recevoir une partie de cet excédent. Donc, il faut s'inscrire. Alors, il y a encore de la place. Alors, inscrivez-vous sur le mail avec la convocation. Il y a le lien avec le. C'est pas la même feuille que pour les cultes. Hein. Il y a le lien sur le mail de convocation. Ou si vous n'avez pas, vous recevez pas par mail, que par enveloppe, vous pouvez vous inscrire auprès des pasteurs. Alors, voilà. Et dimanche prochain, c'est le culte avec Célina. Et après, pour les cultes de l'été, vous recevrez aussi toutes les informations où ont lieu les cultes, quand, comment. Voilà, bon dimanche.
Je crois que j'ai tout dit sauf la date. c'est dimanche prochain. Donc, c'est aujourd'hui le dernier moment pour vous inscrire sur le panneau à la sortie. Et ce serait bien de vous inscrire le plus rapidement possible pour qu'on sache combien de cours sont faits, etc., si c'est sur Internet. Merci.
Voilà, moi j'aimerais juste rappeler encore aussi qu'il y a la collecte, il y a la petite boîte au fond pour ceux qui veulent mettre des sous. Il y a aussi le Twint, merci, ou bien les bulletins de versement. Vous trouverez aussi encore quelques petites pubs si vous voulez distribuer autour de vous par rapport à Merin-les-Bains. Et puis, je tenais tous particulièrement à remercier aujourd'hui la technique, parce que je crois que ce n'était pas simple leur arrivée ce matin pour tout mettre en place. Donc, un tout grand merci aussi à Raymond et à Eric. Merci aussi à tous les musiciens, à nos quatre musiciens. Ça, c'était cool de vous avoir tous les quatre avec nous. Et puis, à Philippe, évidemment. Et puis aussi à Denise qui a mis ses jolies fleurs. Des chants. Voilà, maintenant, je laisse la parole à Philippe pour la bénédiction et je vous demanderai de vous lever.
Et à Claude pour l'avant-goût des vacances aussi, merci. Hein. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages, peut-être sur une plage ou à la montagne. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur. Car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi, tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée, tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Que l'Éternel vous garde et vous protège, qu'il vous réjouisse dans cette nouvelle semaine et qu'il vous maintienne en sa paix. Amen.